le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour, il est temps d'égrener le temps avec les plus belles chansons de toutes les époques. L'abolition de la peine de mort en France en 1981 est un événement historique marquant une rupture entre une justice de sang et une justice fondée sur le respect de la vie humaine. Cette décision a été l'aboutissement d'un long combat militant qui a connu un renouveau dans les années 70, repris par le candidat socialiste François Mitterrand durant sa campagne présidentielle de 1981. Le procès de Philippe Maurice, condamné à la peine de mort pour avoir tué un policier, a également permis de revenir sur les enjeux politiques de l'abolition. Cette avancée a été admise tant à droite qu'à gauche comme irréversible, bien qu'une part importante de l'opinion publique se déclare toujours en faveur d'un rétablissement. Le 9 octobre 1981, la loi d'abolition de la peine de mort, votée le 18 septembre à l'Assemblée nationale, était promulguée. Après plus de 200 ans de lutte, le garde des Sceaux, Robert Badinter, et tous les abolitionnistes tenaient leur victoire.
Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement.
10 octobre 1981, François Mitterrand se rend à Longwy, en Lorraine, et déclare « Il n'y aura pas de secteur condamné, qu'il s'agisse dans votre région de la sidérurgie, qu'il nous faut sauvegarder, développer, des mines de fer dont l'exploitation doit être poursuivie au prix d'un grand effort que supportera notamment la collectivité nationale, car il faut développer les technologies qui, en l'espace de 3 à 4 ou 5 ans, nous permettront d'améliorer la teneur du minerai afin que vous soyez en mesure d'affronter victorieusement la compétition internationale. Nous assurerons la transition. » 17 octobre, loi relative à l'emploi des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Elle renforce la lutte contre le travail clandestin et instaure des sanctions contre les employeurs. Toujours en octobre, le 23 et le 25, congrès socialiste de Valence. Le député Paul Quilès, directeur de campagne de François Mitterrand, déclare « Il ne faut pas se contenter de dire, comme Robespierre, des têtes vont tomber, il faut dire lesquelles et rapidement. » Le 26 octobre, à l'issue d'un long débat, le Parlement adopte le principe des nationalisations. Elles concernent la sidérurgie, 5 grands groupes industriels, CGE, Thomson, Brandt, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, Péchiné, Ugine, Kuhlmann et des principales banques et assurances. Loi du 11 février 1982. Réouverture de l'université de Corse Pascal Paoli, fondée en 1765, qui avait été fermée par l'armée de Louis XV lors de la conquête de la République corse par le Royaume de France en 1769. Le 27 octobre, c'est l'adoption de l'article 2 du projet budgétaire qui institue l'impôt sur les grandes fortunes.
En France, la journée sera encore marquée par la poursuite des débats à l'Assemblée nationale sur le collectif budgétaire. Hier, Laurent Fabius, le ministre du Budget, en présentant son projet, a mis en avant la lutte contre le chômage, mais il a également présenté les grandes lignes d'un contrat de justice fiscale. À ce sujet, Laurent Fabius estime que les dispositions fiscales, qui sont d'autant plus avantageuses que les revenus sont élevés, ne devraient pas être maintenues. Par ailleurs, le gouvernement proposera à l'automne le plafonnement des avantages liés au quotient familial. Enfin, le ministre du Budget a annoncé le début d'une campagne musclée contre la fraude fiscale.
Je confirme ici que, conformément aux engagements présidentiels, nous présenterons à l'automne un projet d'impôt déclaratif sur les grandes fortunes. Ce projet refusera toute disposition confiscatoire. Il ne pénalisera pas l'outil de travail. Il contribuera à plus de justice devant l'impôt. Car il n'y a pas de raison, mesdames et messieurs les députés, que comme par le passé, le travail soit fiscalement pénalisé par rapport à la fortune. Par ailleurs, un important amendement a été déposé et adopté par la Commission des finances. Il concerne le droit des donations partage et relève ce qui est fort bon. Du point de vue de la justice fiscale, il relève l'abattement à la base pour les petites successions. Le gouvernement, parce qu'il est soucieux de respecter le droit de l'amendement de l'Assemblée et parce qu'il partage le souci de la Commission des finances, accepte pleinement cet amendement. Mesdames et messieurs, y compris vous qui siégez sur ces bancs du côté droit de cette Assemblée, prendre un peu du superflu pour alléger la charge de ceux qui n'ont même pas le nécessaire, c'est cela, messieurs, faire preuve de justice sociale.
Pour le plaisir est une chanson du chanteur français Herbert Léonard, parue sur son album Studio éponyme. Elle est sortie en tant que premier single de l'album en avril 1981 sur le label Polydor. Elle est écrite par Claude Carmonne et Evelyne Buggy sur une musique de Julien Lepers.
Comme un fou et un soir.
La chanson se classe en tête des ventes en 1981 et s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires. Elle est certifiée disque de platine par le Syndicat national de l'édition phonographique et marque le retour du chanteur. Pour le plaisir est le plus grand succès de la carrière et une chanson phare d'Herbert Léonard.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
13 novembre 2015. Les attentats du 13 novembre 2015 en France, communément appelés simplement le 13 novembre, sont une série de fusillades et d'attaques suicides perpétrées dans la soirée à Paris et dans sa périphérie par trois commandos terroristes islamistes distincts et revendiqués par l'organisation État islamique Daesh. Le bilan des victimes fait état de 130 morts, puis indirectement 132, et de 413 blessés hospitalisés, dont 99 en situation d'urgence absolue. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France et les deuxièmes en Europe, hors attentats aériens, après les 192 morts des attentats de Madrid du 11 mars 2004, ou troisième si l'on prend en compte les 150 morts de l'attentat du Crocus City Hall à Moscou 8 ans et demi plus tard. Une première attaque a lieu à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, où se joue un match amical de football France-Allemagne. Le personnel de sécurité leur refusant de pénétrer dans l'enceinte du stade, trois terroristes font exploser dans ce qui constitue les tout premiers attentats suicides en France. D'autres attaques ont ensuite lieu à Paris, dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements, où trois individus mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. L'attaque la plus longue et la plus meurtrière, qui fait 92 morts et de nombreux blessés, a lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, également dans le 11e arrondissement de Paris, où environ 1500 personnes assistent au concert du groupe américain de rock Eagles of Death Metal. Trois autres terroristes ouvrent le feu sur le public avant que les forces de l'ordre ne donnent l'assaut et les abattent. Ces attentats ont de nombreuses conséquences sécuritaires. C'est un acte de guerre commis par une armée terroriste, Daesh, déclare le président François Hollande la nuit des attentats. La gravité de la situation est telle que le gouvernement décrète l'état d'urgence sur tout le territoire national, une première depuis le putsch d'Alger de 1958. La police et la gendarmerie effectuent de nombreux contrôles dans tout le pays pour traquer les criminels en fuite et prévenir de futures attaques, tandis que le président de la République rencontre tour à tour les grands dirigeants mondiaux afin de tenter de mettre sur pied une coalition élargie pour détruire Daesh dans ses fiefs de Syrie et d'Irak. Le belgo-marocain Abdelhamid Abba Aoud, qui, selon les autorités françaises, joue un rôle déterminant dans l'organisation de ces attentats, est tué en même temps que deux complices le 18 novembre lors d'un assaut donné par les forces de police à Saint-Denis. À la suite de ces attentats liés à la Belgique et en raison du risque de nouvelles attaques, les autorités belges placent Bruxelles en état d'alerte maximale du 21 au 26 novembre. L'unique survivant des commandos responsables de ces attaques, Salah Abdeslam, est capturé par la police belge dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean le 18 mars 2016, après 4 mois de fuite.
Mains en l'air, hébétés, les derniers spectateurs évacués du Bataclan. Ils viennent d'échapper à la mort. Il est minuit 25. L'assaut vient de se terminer, épilogue du pire attentat commis en France depuis la Libération. Dans les coursives, ces spectatrices apeurées qui se soutiennent, guidées vers la sortie par un policier. Récit d'une nuit qui hante la France depuis 10 ans. Sur scène, ce 13 novembre 2015, le groupe californien Eagles of Death Metal joue son morceau culte Kiss the Devil, embrasse le diable. Hélène, fan de la première heure, est dans la fosse, juste devant la scène, et prend des photos avec son appareil.
La dernière photo que j'ai du groupe, c'est 21h45.
2 minutes plus tard, il est 21h47. Les premières rafales de Kalachnikov viennent interrompre le concert.
moi, je me souviens que Sam Contrary un peu dit « Qu'est-ce qui s'amuse à lancer des feux d'artifice ?» Et peu à peu, tout le monde commence à se baisser. Et il y a quelqu'un qui crie « Oui, il y a du sang partout !»
La suite est captée par un dictaphone à l'intérieur de la salle de concert. 2h40 d'enregistrement, dont nous avons choisi de ne diffuser que quelques extraits. De l'arrivée des trois terroristes à l'assaut final. La terreur des spectateurs. Ce soir-là, les terroristes tirent à 258 reprises dans la petite salle. Julien Pierce se trouve à ce moment-là dans la fosse. Il échappe de peu aux premières salves.
Et puis soudainement, les choses se sont calmées d'un coup. Et il n'y a eu plus de coups de feu. La lumière était totalement rallumée, une lumière très crue, très vive. Il n'y avait plus un bruit. Il y avait le bourdonnement des amplis.
Au rez-de-chaussée, l'un des terroristes fait de nouveau feu. Mais au coup par coup, cette fois.
Il est extrêmement méthodique, extrêmement précis. C'est une balle. Une balle dans la tête. Il est parti du haut de la fosse et il faisait des mouvements latéraux comme ça. Et il se rapprochait peu à peu. Il donnait des coups de pied et puis il exécutait ceux qui étaient encore vivants. Et donc oui, ça se rapprochait. Il fallait faire quelque chose.
Avec un petit groupe, Julien Pierce décide de monter sur scène pour s'échapper.
On cède. Je suis le premier à monter sur scène. Il me voit très bien à ce moment-là. Il a eu le temps de finir de recharger son arme et je le vois à une dizaine de mètres. Et là, les tirs recommencent dans notre direction. Donc là, on s'est mis derrière un ampli, les amplis de retour là, qu'il y a en bas de la scène, là, qui nous ont protégés. On attend que, encore une fois, il recharge son arme, il se mette dos à nous. Et on court sur la scène. Et là, il y a une jeune fille qui était au sol, qui m'appelle à l'aide, qui tend le bras. Et je la mets sur mon épaule. Enfin, je la mets à califourchon sur mon épaule. Et je sors.
Julien Pierce sort par l'arrière de la salle, met la jeune femme dans un taxi direction l'hôpital. Autour de lui, personne n'a conscience de ce qui est en train de se jouer.
Et je suis au beau milieu d'un Paris, aux alentours de 22h, 22h15, avec des grands-mères qui promènent leurs caniches, qui ne savent absolument pas ce qui est en train de se jouer à quelques dizaines de mètres de là.
Pompiers.
Au PC des secours, les appels des premiers témoins, de plus en plus angoissés.
J'ai une fusillade, un procès au Bataclan ce soir.
Ouais, excuse-moi, Bataclan, il y a des tirs.
Alors, je m'en fais blesser. Dites au Bataclan, des gens avec des kalachnikovs.
Il y a une fusillade au Bataclan.
Dans le Bataclan, madame.
Une fusillade.
À l'intérieur, les tirs continuent. Devant la salle de spectacle et jusque dans l'entrée, des témoins incrédules filment la scène.
C'est dingue.
Au même moment, des attaques au Stade de France et sur des terrasses de café sont en cours. Ce soir-là, c'est la magistrate Camille Entier qui coordonne toute l'enquête.
Tout est saturé en fait d'informations qui nécessitent d'être vérifiées. Donc on se rend au Bataclan et là on apprend qu'il y a des individus retranchés dans le Bataclan qui ont fait feu.
Tout le monde à terre !
À l'intérieur de la salle, les trois assaillants revendiquent leur action. On entend la voix de l'un d'eux sur la bande audio.
Les soldats français américains ils bombardent les airs. Voilà, vous avez élu votre président Hollande. Voilà sa campagne, remerciez-le.
Et ils recommencent à tirer. Accroupie au premier rang dans la fosse, Hélène tente de rester le plus immobile possible.
Je reçois une balle de Kalachnikov dans l'épaule. Et quelques secondes plus tard, donc ça, je commence à sentir la douleur. Comme ça, à droite, j'ai l'impression que je peux visualiser, même dessiner la douleur qui se propage. J'ai commencé à délirer, voilà, et j'ai très peur. Là, j'ai très peur.
Il est 21h56. moins de 10 minutes après le début de la tuerie. Et contre toutes les consignes, deux policiers de la BAC décident de rentrer, pistolet à la main. Sur la scène, l'un des terroristes leur donne l'ordre de reculer. Les policiers font feu, le terroriste actionne son gilet explosif. Les deux derniers djihadistes ripostent. Les deux policiers de la BAC sont obligés de se replier.
Tirez-vous de là, putain !
Dans le quartier, la tension est maximale. Et dans les rues alentours, des passants fuient, avec parfois des enfants dans les bras. Les premiers blessés sont évacués à la hâte.
C'est le chaos, hein, très clairement. Hein.
Vite, vite, vite! Entrez chez vous, reculez!
Il est 22h40, la BRI entre au Bataclan et sécurise le rez-de-chaussée. Beaucoup de blessés, mais aucune trace des terroristes, se souvient le chef de l'unité.
Et c'est seulement en fait à 23h15 à peu près que la colonne en progressant à l'étage arrive devant la porte qui donne accès au backstage. Et là, on comprend que derrière se trouvent deux terroristes et des otages.
C'est le début d'une autre crise. Deux terroristes, 11 otages dans un minuscule couloir. La BRI se positionne derrière la porte. Et un négociateur met en place un dialogue avec les preneurs d'otages.
Ils ont communiqué un numéro de téléphone qui est celui d'un otage pour pouvoir être appelé par le négociateur, c'est-à-dire moi-même. Il y a une longue revendication. Et ensuite, un ultimatum. Ils demandent à ce que la colonne d'intervention dégage le plus vite possible, sinon ils vont couper la tête d'un otage.
Dans ce couloir, le photographe David Fritz Göppinger passe plus d'une heure et demie à quelques centimètres de l'un des terroristes.
Maintenant, c'était à 10 ans, mais je me souviendrai toute ma vie de la froideur dans son regard et la détermination, en fait. Lui, il était là pour accomplir une mission, il était là pour tuer, finalement. Et donc, il était dans son truc. Et je ne me souviens pas de quelqu'un qui tremble, de la voix qui tremble, rien du tout. Il était plutôt l'inverse, il était plutôt sûr de lui, en fait. Dans cette négociation, on s'est rendu compte qu'on était vraiment au pays de l'absurde parce qu'il n'y a rien à négocier dans les attentats terroristes. Nous, on était des otages, mais otages de quoi ? Enfin, c'était pas un braquage. Quoi. Finalement, il n'y avait rien à échanger.
Avenir est un single musical de la chanteuse française Louane. Cette chanson est extraite de l'album Chambre 12, une version remixée entre au hit parade français en janvier 2015. Louane a chanté sa chanson le samedi 20 juin 2015 dans l'émission La chanson de l'année sur TF1. Ce titre est nommé pour la victoire de la chanson originale lors des Victoires de la musique en 2016.
Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, on s'est éloigné. Tu ne vas plus m'avoir et tout est terminé. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain. Parti pour un soir, juste lui parler. Au fond d'un couloir, tu voulais aller. Hypocrisie d'un soir, les verres sont cassés. Envoler les espoirs et nos cœurs défoncés. Oh, 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 oh. suis seule dans la rue, je cherche mon chemin. Je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. Oh 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 oh. Tu m'as laissé hier la fin de la saison.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus. À bientôt.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.